12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Place à la critique et place aujourd'hui aux séries qui nous plongent dans des temps radicalement opposés. La première dans le futur, dans 400 ans précisément, soit le temps pour qu'une nouvelle civilisation extraterrestre, avec laquelle une scientifique a établi le contact, débarque sur Terre. C'est l'imposante adaptation Netflix du roman SF « Le problème à trois corps ». La seconde, elle, nous ramène à un passé pas si lointain, mais peut-être déjà daté, on va le voir, celui des sitcoms à la française, réactualisé aujourd'hui avec Terminal, série Canal+, ou le quotidien d'une compagnie aérienne de bras cassés.
Bonjour Joseph Ghosn.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Madame Figaro. Vous débattez ce midi avec Nora Boisoni. Bonjour Nora.
Bonjour.
À distance, mais bien avec nous. Merci beaucoup, journaliste indépendante et présidente de l'Association des critiques de séries. Soyez les bienvenus dans les midis de culture.
Et on commence avec la série Le problème à trois corps, à voir sur Netflix.
Une trentaine de scientifiques est mort ces deux derniers mois.
Quelqu'un ou quelque chose s'en prend aux scientifiques. Ils cherchent les esprits les plus brillants. Quoi que ce soit, ça nous observe et ça nous écoute.
À trois corps est une intrigue à trois problèmes qui tous se rejoignent et s'entrechoquent en 2024. 1967, la révolution culturelle de Mao est en marche. Yi Wenji assiste au massacre public de son père, physicien renommé. Envoyée sur une base de communication, elle y découvre que le but est d'entrer en contact avec des vies extraterrestres. 2024, une série de morts de scientifiques inquiète le gouvernement britannique qui décide avec l'aide d'un groupe d'anciens étudiants d'élucider ces mystères. Il découvre alors que ces meurtres seraient liés au contact lancé dès les années 60 à ces vies extraterrestres. Extraterrestres nommés les Santi qui annoncent leur arrivée dans 400 ans sur Terre. Voilà, 1967, 2024, 2400, pour cette adaptation de la trilogie SF mythique de Liu Cixin, Netflix a sorti les grands moyens, son plus gros budget jusqu'ici, et l'appel aux créateurs de la série Game of Thrones, pour nous confronter au temps long, que faire face à l'annonce de l'arrivée des Santi, comment agir maintenant, et la physique quantique sera-t-elle la solution? Qu'en avez-vous pensé, Nora Boisoni, vous qui avez lu la trilogie, il me semble?
Et oui, alors je suis une grande fan de cette trilogie de Liu Cixin, et d'ailleurs je salue la traduction de Gwenaëlle Gaffric qui est extraordinaire, il faut le dire.
Alors, c'est chez Actes Sud, je précise.
C'est chez Actes Sud, absolument. Il y a une réédition d'ailleurs et des collecteurs qui sont fabuleux pour les fans comme moi et ceux qui n'ont pas encore découvert cette trilogie. Alors vous disiez justement, Géraldine, que c'est une adaptation imposante. Et puis on a entendu le caractère épique de cette bande-annonce avec la musique, etc., auquel on est habitué pour ce genre de série. Et ben moi, je suis un peu partagée parce que j'aurais aimé que cette série, qui, comme vous l'avez dit, a un budget énorme, 160 millions de dollars, c'est colossal. Et puis, on a quand même une trilogie qui a reçu des prix Hugo, c'est les prix les plus prestigieux de la science-fiction dans le monde. On a donc les showrunners de Game of Thrones, Weiss et Benioff. On a le showrunner de The Terror, qui était une super série, Alexander Wu. On a un casting qui est quand même plutôt pas mal sur le papier. On a une histoire qui est extraordinaire. Et bah, ça tombe un peu à plat. C'est-à-dire qu'il y a un côté terne. On ne s'y intéresse pas vraiment. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé avec la curiosité de la personne qui a lu les livres, donc en me disant oh, comment ils vont faire ça, je sais ce qui va se passer, à quoi ça va ressembler. Mais je me mets à la place des gens qui n'ont pas lu la trilogie et je me demande est-ce que ces gens vont avoir envie de regarder la suite, s'il y a une suite, hein, car la saison 2 n'a pas encore été annoncée. La saison 1, elle mange un petit peu le tome 2. Donc on n'est pas tout à fait sur l'adaptation en tome assez fidèle. Et je me demande justement s'il n'y a pas un effet un petit peu... c'était trop pour eux, quoi. Est-ce qu'ils n'ont pas été trop gourmands?
Alors vous savez quoi, Nora, on va tout de suite poser la question à Joseph Ghosn qui... Vous, Joseph, vous, vous n'avez pas lu cette trilogie.
Non, je n'ai pas lu la trilogie.
Honte à vous.
Absolument, absolument.
Je m'effondre.
Je reste là. Non, je n'ai pas lu et j'ai... même si on connaissait l'existence, évidemment, mais j'ai abordé la série en néophyte, en amateur de science-fiction, mais sans savoir à quoi m'attendre du point de vue de l'intrigue. Et j'ai même un peu occulté le fait que c'était les gens de
De Game of Thrones.
De Game of Thrones, etc. Donc, j'ai vraiment plongé. Alors, plusieurs choses. La première, c'est que j'ai été immédiatement captivé et happé par le début de la série. Parce que je ne savais pas où j'allais. Je ne savais rien de s'y allait arriver. Vous avez un peu raconté l'intrigue et certaines choses qui se dévoilent, mais qui se dévoilent un peu plutôt vers le milieu de la série, je crois.
C'est très progressif.
C'est très progressif. C'est très progressif et je trouve qu'on est vraiment pris par cette progression. Le côté sériel fonctionne assez bien au début en tout cas, et il fonctionne d'autant mieux que je trouve que le début de la série est porté par une esthétique assez forte, assez belle, en tout cas très maîtrisée. Donc on est pris, et on est d'autant plus pris qu'on se demande vraiment ce qui se passe, notamment au début où il y a ces morts de scientifiques, qu'il y a aussi en parallèle ce qui s'est passé en Chine. Donc on se demande comment tout ça va se...
Quel est le rapport entre ces deux temporalités?
Quel est le rapport entre ces temporalités? Et surtout, qu'est-ce qui cause la mort? Et quand on se met à découvrir que ce qui cause la mort, ce sont c'est une surimpression d'un compte à rebours sur la rétine des gens qui meurent, on se demande vraiment ce qui est en train de se dérouler, comment ça se fait et comment ça s'incruste en fait dans la rétine et qu'est-ce qui reste en fait. Donc il y a pas mal d'intrigues, pas mal de choses qui moi m'ont porté, moi assez passionné, qui m'ont donné envie de continuer. Donc de ce point de vue-là, je trouve ça assez réussi. Ensuite, sur la longueur.
Et c'est là où il y a un mais, j'imagine.
Peut-être.
Il y a peut-être
un mais. Il y a peut-être un mais parce que j'ai été vraiment porté jusqu'au bout de l'intrigue, jusqu'au bout des épisodes. Le mail, il concerne peut-être plutôt l'esthétique et la force esthétique de l'ensemble, la force même un peu narrative, en tout cas dans l'écriture de cet ensemble, qui m'a rappelé moi plutôt une série d'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années qui s'appelait Heroes, qui était une série autour de personnages qui avaient des super pouvoirs et qui couraient tous après cette idée qu'il faut sauver le monde. Là, il y a aussi un peu cette idée là, tiens, comment est-ce qu'on va sauver le monde. Et en fait, au bout d'un moment, ça s'épuise, les personnages s'épuisent, l'intrigue s'épuise, et il y a quelque chose qui s'affaiblit, en tout cas dans le regard qu'on porte vers la série.
Donc peut-être que l'adaptation en série n'était peut-être pas le bon format. Nora, de votre côté, vous dites que voilà, l'intrigue empiète un peu, que du côté de ceux qui ne connaissent pas le livre, il y a peut-être une forme de frustration. D'un point de vue esthétique, est-ce que vous partagez comme Joseph ces réserves sur le côté épuisement, à la fois du côté effectivement du fond, mais aussi surtout de la forme, sans grande invention, ou en tout cas sans grande créativité?
Oui, alors le problème quand on a lu le livre, c'est que, alors on rappelle que c'est quand même de la hard science-fiction, c'est-à-dire c'est la science-fiction qui est basée sur des connaissances scientifiques actuelles qu'on peut extrapoler, donc c'est pas de la fantasy. Donc on a des pages et des pages d'explications scientifiques. Moi j'adore, hein, c'est mon petit kink SF, la hard SF. Bon, donc c'est passionnant parce qu'on nous explique énormément de choses scientifiques. Dans la série, on n'a plus à faire ce travail d'imagination, et je pense notamment à plusieurs séquences que je dévoilerai pas, sauf... pas dévoiler non plus, mais...
Une petite quand même, pour nous donner une idée.
En fait, il y a un jeu vidéo. Voilà, donc on le voit dès le début. Il y a un univers virtuel dans lequel les anciens étudiants, les Oxford Five, qui sont une invention, hein, qui ne sont pas exactement les mêmes personnages dans le livre, vont avoir accès pour débloquer des choses. Bon, on va pas dire quoi. Et en fait, je trouve ça assez incroyable que dans une série avec autant d'argent, l'esthétique soit aussi peu travaillée, sauf dans cet univers virtuel jeu vidéo où on voit un moment, une séquence... plutôt vers la fin, donc je ne vais pas trop en dire, mais on a une armée, on a une armée qui va prendre le rôle d'une espèce d'ordinateur vivant. Bon, dans le livre, ça prend plusieurs pages, beaucoup d'explications. Là, c'est très rapide, on a à peine le temps de comprendre ce qui se passe. Il y a des séquences magnifiques dans cet univers virtuel. En revanche, dans la vie réelle, alors que dans le livre, il se passe plein de choses qu'on imagine extraordinaires, bah, c'est un petit peu décevant. Sur le fond, sur la narration, moi je trouve, alors après évidemment, j'ai toujours ce regard de la personne qui a lu le livre, mais j'ai trouvé, et en parlant de ça avec des gens qui n'ont absolument pas lu le livre, voire des gens pour qui la SF n'est pas non plus une passion, qui m'ont dit « ça va trop vite ». Qui m'ont dit je comprends pas, tout va très très vite, c'est un petit peu, faut vraiment s'accrocher quoi. Dans le livre, on a pris le temps, on rappelle, c'est quand même, donc il y a trois bouquins, c'est une trilogie, ça fait en moyenne, il y en a un plus gros, mais ça fait en moyenne 600 pages quoi, donc on est quand même sur un truc en longueur. Et puis je suis tout à fait d'accord avec ce que Joseph disait sur les personnages, sur le fait qu'on Au bout d'un moment, on n'en a presque plus rien à faire, en fait.
C'est-à-dire que l'amitié même entre ces étudiants, elle n'est pas si frappante que ça, ils sont assez dispersés.
Moi, je n'y crois pas beaucoup. C'est-à-dire que ce groupe-là, je n'y crois pas beaucoup. Déjà, je trouve qu'il y a un problème au niveau acting de certains acteurs, actrices. Je n'y crois pas beaucoup et j'ai pas très envie de savoir ce qui va leur arriver, finalement. Alors que dans le livre, mais on est pris. Mais c'est des livres que moi, je n'ai pas réussi à arrêter de lire. Je me suis couchée à 6 heures du matin pour les finir. Et là, je ne retrouve pas cette excitation dans l'adaptation sérielle.
Sur l'attachement au personnage, Joseph, il faut quand même aussi préciser que cette adaptation, elle a quand même nécessité une transposition de l'intrigue de la Chine à l'Angleterre. D'ailleurs, il y a eu une réaction de la part du public chinois qui non seulement trouvait que l'image des gardes rouges était dégradée, enfin que c'était des clichés sur la révolution culturelle maoïste, mais qu'aussi, en fait, cette transposition-là, elle était dommage. Peut-être que ça tient à ça aussi, la perte un petit peu en vigueur des personnages.
Il y a effectivement un vrai décalage entre la Chine, le début de l'intrigue et le moment où nous sommes. Donc on ne sait pas exactement comment ça s'est relié. Il y a effectivement une explication à peu près rationnelle de comment c'est relié, mais c'est un peu déséquilibré. Cela dit, moi j'ai l'impression que ce qui se passe dans la série avec ces personnages-là, ce groupe de personnages, est assez typique de ce qui se passe dans certains pans de la science-fiction et même des intrigues en ce moment, enfin notamment aux États-Unis. On a beaucoup à faire à des intrigues où il y a des groupes de personnages comme ça qui représentent chacun comme une sorte de facette plus ou moins morale ou en tout cas avec une sorte de cliché. Et on les mène plus ou moins vers l'abattoir. Et on voit ce qui se passe.
On voit qui réagit comment. Impuissance, révolte, culpabilité.
Exactement. Donc, en fait, au bout d'un moment, assez vite, on se rend compte qu'on est face à une matrice et on voit ce qui arrive aux personnages. Donc, on est assez vite désintéressé de leur sort, finalement. On suit quand même le récit parce qu'il y a quelque chose on est un peu sur la lancée des deux premiers épisodes, je dirais, qui, eux, sont assez forts. Et donc, on se dit, tiens, suivons ce récit-là, voyons ce qui va leur arriver. Mais on s'en désintéresse quand même assez vite. Et je trouve que la fin, vraiment, les toutes dernières scènes, c'est assez cliché et ça ne supporte pas la puissance du début.
Mais il y a quand même quelque chose qui tient le spectateur. En tout cas, moi, ça a été mon cas. C'est quand même la grande question qui est posée. On est obligé de penser à Don't Look Up, qui était sorti en 2021 aussi sur Netflix, où là, tout le monde se désintéressait de la catastrophe. Alors que là, il y a une vraie question qui est posée. La catastrophe est annoncée pour dans 400 ans. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment on peut se coordonner sur des années? Est-ce qu'on s'en fiche? Est-ce qu'on est dans l'indifférence? Ou est-ce qu'au contraire, voilà, est-ce que cette série, elle pose à se questionner sur notre activité au présent pour dans 400 ans, ce qui est d'actualité en plus avec la question de l'urgence climatique, Nora?
Je pense que c'est ça, évidemment, qui va faire tenir les gens et peut-être que c'est ça qui va faire commander à Netflix une saison 2. Enfin, je l'espère quand même, parce que ce sera vraiment dommage de s'arrêter là. Pour moi, cette série n'est pas un gâchis, hein. C'est pas une mauvaise adaptation en soi. Il paraît que l'adaptation chinoise qui a été diffusée l'année dernière, il me semble, est vachement meilleure et je crois qu'elle est sur YouTube d'ailleurs, dispo gratuitement.
Voilà, on va faire de la pub pour l'autre série du coup.
Non, mais j'invite tout le monde à la regarder. Moi, il faut que je la regarde aussi pour comparer, hein, évidemment. Mais oui, vous avez raison, Géraldine. Je crois que c'est ça. En fait, on l'apprend assez rapidement dans la série et puis ça qui va faire tenir. On comprend aussi vers la fin de la série comment certains personnages vont peut-être survivre à cette ère hein, qui va passer, ces 400 ans qui vont passer. En tout cas, les livres vont très 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 loin dans le futur, je n'en dirai pas plus, mais vraiment très très loin, jusqu'à des moments qu'on ne peut même pas imaginer. Alors moi en fait c'est vraiment purement égoïste, hein. J'ai hâte de voir la suite de la série pour voir comment ils vont faire visuellement pour des choses qui ne sont pas concevables par le cerveau humain et par la physique, hein, on va dire, les lois de la physique, sur cette idée de qu'est-ce qu'on fait quand on sait ce qui va se passer, donc une invasion extraterrestre dans 400 ans, dans le livre, on est beaucoup dans la tête des personnages dans le livre, et je crois que c'est la force, une des forces du livre. Et ça va être compliqué de le retranscrire à l'écran, d'autant plus qu'il me semble que cette série fait aussi l'erreur que Netflix fait beaucoup, c'est-à-dire une espèce de Netflix washing, de simplification, d'over-simplification. de plein de choses, de la complexité des personnages, de la complexité de l'histoire, de l'intrigue, de la philosophie, des réflexions, pour avoir un produit qui finalement reste très consensuel, qui reste très mondialisé. Hein, c'est un peu beaucoup l'écueil de Netflix dans ses super productions de ce genre-là. Et je crois qu'on va vraiment en souffrir, malgré le fait que oui, c'est vraiment crucial de savoir qui va faire quoi. Je voudrais juste rajouter une dernière chose à ce propos, c'est que dans le livre, les gens qui attendent la venue d'extraterrestres sont divisés en deux clans. J'en dis pas plus pour les gens qui voudront lire le livre. Je sais, je suis très dans le mystère. Mais il y a deux clans qui, justement, attendent cette venue pour des raisons différentes, avec des raisons philosophiques différentes qui sont très bien expliquées. Et ça, on ne l'a pas dans la saison 1. Et ça manque cruellement parce que vraiment tout le sel de cette trilogie reposait là-dessus.
En quelques mots, Joseph Gunn, est-ce que vous allez regarder la suite? Est-ce que justement cette question-là vous intéresse de voir comment on réagit?
Absolument. En fait, je crois que ce qui m'a tenu, c'est moins les questions scientifiques que les questions philosophiques, parce que la série, je trouve qu'elle est portée par des questions comme celle-là, des questions comme qu'est-ce qui est vécu, qu'est-ce qui est retenu, où est le réel entre tous ces moments différents d'existence que la série décrit, et effectivement des questions assez morales à partir du moment où on vit les choses sur des plans virtuels, comment est-ce qu'on peut décider du massacre de gens dans la vie réelle, et c'est ce qui se passe en fait dans la série, et ça ces questions là qui sont sous-jacentes, je trouve que c'est ce qui tient le plus le spectateur et en tout cas la réflexion, et qui donne envie de voir comment aller vers la suite.
Ils arrivent et vous ne pouvez rien pour les en empêcher.
Le problème à trois corps, série en 8 épisodes, donc de David Benioff, D.B. Weiss et Alexander Wu, et c'est à voir sur Netflix.
12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Et nous parlons à présent de Terminal. Bienvenue à l'aéroport, disponible depuis le 22 avril dernier sur Canal+.
Et bonjour à tous, c'est Jack, votre commandant de bord.
Quelle est votre position et comment vous ?
Ma position est assise, je répète, position assise.
Je suis habillé classe pour la business class.
On dirait Khaled carrément. Tu sniffes de l'eau écarlate pour être aussi con, quoi.
Moi, je suis né dans les favelas. Je suis un mec de la street à la base. Stop ! Excusez-moi.
T'es tranquille de me couper la parole ? T'as pas remarqué que j'étais en train de développer une pensée ?
Des rires enregistrés, des blagues en veux-tu, en voilà, la sitcom humoristique fait son grand retour en France sur Canal+, et sous la houlette de Jamel Debbouze. La sitcom ou ce genre populaire, pourtant délaissé dans l'Hexagone depuis la fin de la série H en 2002, déjà sur Canal+, et déjà avec Jamel Debbouze. Sauf qu'avec Terminal, nous ne suivons plus le quotidien de bracassé d'un hôpital public, mais le quotidien de bracassé d'une compagnie aérienne low cost, Fly Wings. Et sauf que pour ce grand retour, on a mis les moyens, 12 épisodes de 26 minutes enregistrés en public, placés sur une estrade pivotante à 360 degrés, passant d'un décor à l'autre, d'une scène à l'autre. Hôtesse, pilote, steward, comique de caractère et de situation, tous les ingrédients sont là et tous fondés sur l'idiotie. Mais est-ce que ça marche ? Est-ce que ça ne fait pas trop réchauffer, Joseph Gaun ?
Alors, moi j'ai beaucoup rigolé.
Alors oui, mais alors ça en dit peut-être plus sur votre humour que...
Peut-être. Non, je crois qu'il y a, plusieurs niveaux d'humour et de rigolade possibles dans cette série. Il y a un premier niveau de rire qui est un rire un peu nostalgique pour ceux qui ont un peu en mémoire des sitcoms, et plus des sitcoms américaines. Moi c'est ce que j'ai eu en mémoire, des choses même assez anciennes comme Happy Days, pour ceux qui s'en souviennent, ou Friends. Des choses des années 80-90. J'ai jamais été un grand spectateur ou fan de H, donc je n'ai pas ce rapport-là, cette nostalgie-là. Donc il y a ça. Ensuite il y a évidemment tout ce comique de cette situation qui est quand même, évidemment c'est la sitcom, qui fonctionne bien dans ce cadre de l'aéroport et de l'avion, qui sont des cadres qui pour beaucoup sont des cadres assez angoissants. Et on a toujours quand on se rend à l'aéroport ou qu'on prend l'avion, il y a toujours cette peur d'être un peu décalé ou de d'avoir oublié quelque chose ou d'être confronté à des gens qui sont des incapables en fait et on ne sait pas ce qui va se passer. Donc ça joue à plein avec ça et moi j'ai trouvé ça assez drôle, d'autant plus qu'on est dans une époque où évidemment les tout ce qui est low cost etc marche fonctionne à plein et qu'on s'engouffre dans ces choses là. Donc il y a aussi ce rire là. Ensuite il y a aussi un rire, je trouve, qui est pas toujours le plus réussi, mais il y a un rire qui est aussi sur l'époque. C'est-à-dire ça prend des choses de l'époque, notamment les personnages des hôtesses qui s'emparent par exemple des questions d'engagement, certaines questions liées au masculin, au féminisme, etc. Ça essaye de trouver des saillies avec ça. Donc j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'inventions et ça m'a pas mal tenu. Et ensuite, pour tout vous dire, je trouve qu'il y a un vrai jeu d'équilibre entre les voix et c'est une série que j'ai aussi pas mal écoutée en fait. Et ça marche bien aussi comme ça.
En
mode radio.
Vous avez fait une fiction radio.
Je me suis fait une fiction radio. Absolument. Il y a un ou deux épisodes que j'ai regardé et enfin, en tout cas, écouté comme ça. Et le jeu des voix entre tous ces acteurs fonctionne vraiment bien. Il y a quelque chose de dynamique qui m'a bien plu.
Nora Boisouni, partagez-vous l'enthousiasme de Joseph Ghosn?
Alors, on va prendre ce que Joseph a dit et on va faire le négatif total de ce que je viens d'entendre. Moi, je n'ai pas assez de mots pour dire ma consternation devant cette chose, cette espèce de capsule temporelle qu'il n'aurait pas fallu déterrer. Malheureusement, elle n'a pas été déterrée, elle a été créée en 2023 pour une diffusion en 2024 et je n'ai même pas les mots.
Il va falloir en trouver un petit peu là.
Pas de problème. Je ne vais pas vous lire le dictionnaire des synonymes du mot consternant, atterrant, mais j'ai été stupéfaite devant tant d'imbécilité. Justement, devant une telle absence d'inventivité et de créativité, je suis pas une fan de sitcom, mais j'aime ça. Je suis pas quelqu'un qui va trouver ça trop populaire, trop vulgaire, etc. Non, moi, j'ai beaucoup de plaisir à regarder des sitcoms américaines, par exemple. Alors, j'étais pas du tout une fan de H, même si j'adorais l'humour d'Eric et Ramsey. J'aimais beaucoup l'humour de Jamel Debbouze, mais H ne m'a pas plu. Alors là, quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit, bon, le casting, il est quand même extraordinaire. Il y a beaucoup de jeunes talents aussi. Hein. Il y a des talents du cinéma qui viennent, du stand-up, etc. Je me suis dit, bon, j'ai vu aussi certains noms au scénario ou aux co-scénaristes, notamment Xavier Lacaille.
Ou Paul Mirabel aussi.
Paul Mirabel. Bon, je me suis dit, il va y avoir quelque chose de moderne. Eh bien, moi, je trouve qu'il n'y a aucune modernité. Qu'on aime les rires enregistrés ou pas, c'est autre chose. Qu'on aime la sitcom ou pas, c'est autre chose. En revanche, mais les blagues ne sont pas des blagues, ça tombe à plat. Moi, j'étais gênée pour les acteurs-actrices qui se sont fichus là-dedans. Je me suis même demandé à un moment donné si... J'ai envie de leur demander, clignez des yeux si vous voulez de l'aide. En fait, est-ce que vous avez perdu un pari? Est-ce qu'il fallait que vous payiez vos impôts? Enfin, vraiment... Pour moi, c'est
ça payer leurs impôts sûrement. Ça, je pense que comme voilà. Tout le monde, en
comme
ce
tous
moment...
les artistes. Pour moi, c'est une catastrophe ambulante.
Alors, je cite quelques noms quand même dans cette série. Ramzi Bedia qui joue le pilote nul, Tristan Lopin qui interprète un steward snob, Camille Chamou qui incarne une hôtesse de l'air qui, elle, est très engagée, veut mettre des pantalons au lieu des jupes. Il y a aussi Douli en directrice qui est assez sévère, qui peut être, qui incarne complètement ce personnage sévère. Moi, j'étais une grande fan de H. Pour le coup, ce qui m'a gênée, c'est d'avoir l'impression, effectivement, d'avoir la même sitcom, mais en 2024, sans évolution, ce qui en dit en fait peut-être plus sur là où c'est produit, Canal+, l'ère Bolloré, réactiver quelque chose et sans inventivité en fait, Joseph.
Il y a une phrase dans la série qui est « Vous êtes comme des vêtements pour chiens, vous ne servez à rien ». Et je trouve que ça raconte beaucoup sur ça en dit beaucoup sur la série, c'est-à-dire cette espèce d'humour totalement décalé, un peu puéril, et qui résume un peu cette série. Moi, je l'aime bien, ça me fait rire, mais effectivement, ça ne sert pas à grand-chose sans doute. Cela dit, il y a aussi quelque chose, je trouve, du décalage, notamment dans les premiers épisodes, et surtout quand Jamel est là. Je trouve que puisqu'on le voit pas beaucoup, hein, il est assez présent dans le premier épisode, et quand il est là, il y a quelque chose dans son langage qui s'impose tout de suite et qui est vraiment en décalage avec la réalité, avec le réel et avec tous les autres personnages. C'est comme si vous aviez une sorte de double couche de réalité qui s'imposait à vous. Et ça, je trouve ça assez fort.
Même inventif, vous diriez, vous, Joseph ?
Inventif ou pas, je sais pas, mais en tout cas, ça marche, ça fonctionne. Et on est tout à coup décalé par rapport à ce que l'on voit et par rapport à la réalité. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Et je trouve que ça renvoie le spectateur au côté absurde que l'on peut éprouver, notamment quand on est face à, dans un aéroport et dans des situations comme celle-là. De ce point de vue-là, je serais pas aussi féroce par rapport à cette série que ce que j'ai entendu. Je serais plutôt un peu assez clément. Moi, c'est, en fait, finalement, ça renvoie à ces séries qui étaient, ces séries de films. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Qui sont des espèces d'exercices de dégénérescence de la comédie. Et de ce point de vue-là, je trouve que ça fonctionne plutôt bien.
Mais ça, c'est une très bonne question, Nora. Qu'est-ce qui fait que on trouve ça bête et donc du coup consternant, comme vous l'avez dit, ou au contraire, est-ce qu'on trouve ça intelligent parce que ça va jouer sur les ressorts de cette bêtise? Pourquoi? Pour vous, Nora, ça tombe plutôt du côté de la bêtise, malgré les créateurs, malgré ce qu'ils ont voulu faire.
L'idée, surtout. En fait, moi, quand je parle vraiment d'inventivité, je tiens à ce mot. C'est-à-dire que je ne me dis pas juste c'est bête, je me dis en fait c'est des blagues carambars, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai regardé la série, il y a deux choses. D'abord, je me suis dit, est-ce que en fait c'est pas méta? Est-ce qu'on n'est pas dans le film
voilà,
coupé?
C'est ça.
Voilà, où en fait, au bout de 19 minutes, je vais me rendre compte qu'en fait c'est un tournage d'une mauvaise sitcom, mais dans une bonne sitcom. Enfin voilà, je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas dans ce film d'Anavisius qui est un remake d'un film japonais? Ensuite, sur la question de qu'est-ce qui différencie peut-être une intelligence ou quelque chose de drôle...
En 30 secondes, Nora, pardonnez-moi.
En 30 secondes, non, pas de souci. C'est la série de films que citait Joseph, il y a un pilote dans l'avion, justement, il y a de la parodie. Et là, on n'est pas sur de la parodie. La parodie, c'est une intelligence du rire. C'est un humour intelligent. Là, il n'y a pas de référentiel, il n'y a rien. Pour moi, on est sur un néant, une vacuité totale dans la créativité, dans l'intelligence. J'ai eu l'impression que je devinais ce que les personnages allaient dire systématiquement.
Bon, merci beaucoup à vous deux. Bah, pour vous faire une idée, auditeurs, auditrices, allez voir sur Canal+, c'est Terminal, 12 épisodes de 26 minutes avec Ramzi Bedia, Tristan Lopin, Camille Chamou. Ça a été réalisé par Jamel Debbouze et Mohamed Hamidi. Merci à tous les deux, Joseph Ghosn, Nora Boisouni. Toutes les références et tous les débats sont à retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.